Mondial Sport sur RFI. Tom Rossi.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, Mondial Sport chausse ses crampons. Beaucoup de football au programme avec en France le classique Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Le match se déroule en ce moment et dès le début de l'émission, on retrouvera en direct du Parc des Princes Hugo Moissonnier qui va nous faire vivre la fin de cette rencontre en fil rouge. Lui viendra nous donner les dernières nouvelles d'Angleterre. Bruno Constant, notre consultant, va revenir pour nous sur le choc de la 10e journée de Première Ligue, Liverpool, Tottenham. Mondial Sport vous emmènera ensuite sur le continent, match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération au menu. Pour en parler, l'inévitable Antoine Grenier qui n'oubliera pas d'évoquer aussi la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Après l'équipe du Sénégal hier, focus aujourd'hui sur celle du Cameroun. On n'oublie pas également le rugby, l'Afrique du Sud qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. Et puis le cyclisme, la 3e étape du tour du Burkina Faso est au programme. Mondial Sport à l'heure d'hiver. C'est parti. En France, on a changé d'heure la nuit dernière. Mondial Sport, ce n'est plus à 23h30, mais 22h30, heure de Paris, pour que rien ne change en temps universel. L'un des avantages, c'est qu'on peut suivre en direct la fin du classique Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. L'un des avantages aussi, c'est qu'on va retrouver au Parc des Princes Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Tom Rossi, bonsoir à tous. Il n'y a que l'heure qui a changé. Le rapport de force entre Paris et Marseille en Ligue 1, lui, il est toujours le même.
C'est-à-dire, là, on joue la 69e minute et le PSG domine très largement ce classique.
Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. On va entrer dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. 4-0 pour le PSG face à l'OM. Les 4 buts, ils ont été inscrits en première période, avant la pause. C'est dire à quel point la domination est nette du côté du PSG. Je vous fais le résumé des épisodes précédents. J'imagine que c'est ça, mon cher Tom.
Oui, exactement, allez-y.
Ça a commencé assez vite hein, pour les Marseillais comme pour les Parisiens. 10e minute, le centre de Di Maria, Icardi, de la tête puis du pied, qui s'y reprend à deux fois pour tromper un Steve Mandanda qui aura quand même réalisé quelques parades, mais qui ne sera pas parvenu à réaliser trop de miracle. Attention peut-être avec Icardi pour Mbappé. On était tout près du cinquième. Je reviens à ma première période après le premier but. Le deuxième, Icardi, encore lui, bien lancé par Verratti et qui devance de la tête Steve Mandanda. Puis débute le show Kylian Mbappé. Mbappé lancé par Di Maria qui marque dans le but vide aux alentours de la demi-heure de jeu. Kylian Mbappé qui, de nouveau lancé par Di Maria juste avant la pause, trompe un Steve Mandanda à la main peu ferme sur ce coin. Kylian Mbappé qui laisse sa place, hein, il était de retour dans le 11 titulaire après son triplé spectaculaire sorti du banc à Bruges cette semaine en Ligue des Champions. Kylian Mbappé remplacé, acclamé évidemment par le public du Parc des Princes, remplacé par un autre revenant, Edinson Cavani, hein, qui a vu son statut quelque peu ébranlé par celui qui est en train de véritablement se révéler sous les couleurs parisiennes en ce moment, à savoir Mauro Icardi, auteur d'un doublé donc ce soir. Il en avait déjà marqué deux cette semaine à Bruges.
Merci Hugo, on reviendra vers vous dans quelques minutes. Deux autres rencontres de Ligue 1 étaient au programme cet après-midi. Après 10 matchs sans victoire, Rennes s'est relancé 3-2 face à Toulouse. Plus tard, Saint-Etienne et Amiens ont fait match nul de partout. À noter que le classique hein, PSG-OM que l'on suit ce soir a aussi eu sa version féminine aujourd'hui. Les Parisiennes sont allées corriger les Marseillaises 5-0 en clôture de la 7e journée de D1. Comme promis, on prend la direction de l'Angleterre. La 10e journée de Première Ligue vient de s'achever sur ce choc Liverpool-Tottenham. 4 mois après la victoire des Reds face aux Spurs en finale de la Ligue des Champions, les hommes de Jürgen Klopp ont une nouvelle fois écœuré leurs adversaires. Ils étaient menés 1-0 mais se sont finalement imposés 2-1. Pour en parler, nous sommes au téléphone avec Bruno Constant, notre consultant que vous pouvez entendre régulièrement dans Radio Foot International. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bruno, le leader Liverpool a tremblé mais n'a toujours pas chuté.
Non, mais on les a vus effectivement un peu vaciller. On a vu des Reds d'abord cueillis à froid par des Spurs qui ont ouvert le score par Harry Kane, qui a eu un peu la chance de reprendre une frappe de Son déviée sur le poteau. Et tout ça après seulement 48 secondes. Mais très vite, on a senti que le rouleau compresseur rouge allait se mettre en marche et accentuer sa pression sur le but de Tottenham. Les Spurs ont tenu jusqu'à la pause avant de craquer au retour des vestiaires sur une reprise d'Anderson et puis de céder à l'entrée du dernier quart d'heure sur un pénalty arraché par le Sénégalais Sadio Mané dans les pieds de l'Ivoirien Serge Aurier et transformé par l'Égyptien Mo Salah, une action 100% africaine. 9e succès en 10 journées pour Liverpool qui conserve son avance de 6 points sur Manchester City qui s'était imposé la veille face à Aston Villa.
Liverpool loin, très loin devant le voisin aussi, Manchester United. Les Red Devils qui ont enfin gagné en Premier League cet après-midi, c'était face à Norwich 3-1, Bruno.
Oui, ça va beaucoup mieux du côté de Manchester United. On l'avait vu déjà le week-end dernier face à Liverpool. Puis cette semaine, tout simplement, deux victoires à l'extérieur. La première en Europa League sur le terrain du Partizan Belgrade. Et puis cet après-midi, à Norwich, 3-1 en Premier League. Avec à chaque fois un but d'Anthony Martial, le Français, qui signe de la plus belle des façons son retour dans le 11 de Ole Gunnar Solskjaer après sa blessure à la cuisse. C'est lui qui avait offert la victoire à Belgrade sur penalty. Cette fois, il a inscrit le troisième but mancunien. Je vous conseille d'ailleurs la talonnade de Marcus Rashford qui fait office de passe décisive sur ce but. La seule petite ombre au tableau, c'est que Manchester a raté deux penalty par Rashford et par Martial, mais on l'a vu, les deux joueurs se sont fait pardonner en marquant un but chacun.
Et à l'inverse de Manchester United, Arsenal n'a pas réagi après la défaite à Sheffield la semaine dernière. Les Gunners tenus en échec à domicile par Crystal Palace.
Oui, ça va mal du côté d'Arsenal qui a pas vraiment été aidé par le VAR cet après-midi. Arsenal a bien cru arracher un succès 3-2 face à Crystal Palace grâce à son défenseur central Socratis. Mais le but du défenseur grec a été annulé sur décision du VAR pour une faute pour le moins litigieuse. Arsenal avait mené 2-0 au bout de 9 minutes grâce à sa charnière centrale, Luis et Socratis déjà, avant de voir revenir Palace avec au passage un but de l'ancien Marseillais Jordan Ayew. Et finalement, on a vu les Gunners abandonner 2 points à domicile après s'être incliné déjà à Sheffield United lundi dernier. Ça fait 1 point sur 6 possibles, c'est peu. On a également vu un capitaine des Gunners, Granit Xhaka, remplacé et sifflé par le public de l'Emirates Stadium. C'est un choix de Unai Emery qui est extrêmement contesté auprès des supporters. Un public de l'Emirates qui a également chanté à la gloire de Mesut Ozil, qui lui est écarté par l'entraîneur des Gunners depuis le début de saison, en accord avec ses dirigeants. Et là, encore une fois, les supporters ont du mal à comprendre. Et puis, ajouter à cela une approche tactique souvent contestée, pas le moindre but dans le jeu depuis 3 journées. Bref, c'est pas le début de saison rêvé, en tout cas espéré, après une activité sur le marché des transferts qui avait pourtant séduit. Arsenal est toujours 5e, mais laisse filer Leicester et Chelsea.
Un petit mot sur Chelsea, Bruno. Tout va bien pour les Blues.
Ah, tout va bien pour les Blues de Frank Lampard. C'est la belle surprise de ce début de saison. On leur prédisait un début de championnat compliqué avec le départ de leurs meilleurs joueurs Eden Hazard et l'interdiction de recrutement. On voit des Blues qui enchaînent un 7e succès consécutif, toutes compétitions confondues, après ce succès à Burnley, sur le terrain de Burnley, 4-2, avec notamment un hat-trick de Christian Pulisic, la recrue américaine qui n'avait pas encore marqué cette saison. Willian a inscrit le 4e but avant que les Clarets ne profitent d'un relâchement des Blues pour marquer 2 buts, mais ça va plutôt bien du côté des Blues qui s'étaient notamment imposés en Ligue des Champions sur le terrain de l'Ajax Amsterdam.
Merci beaucoup Bruno Constant, on vous retrouvera très bientôt dans Radio Foot International. Bonne soirée à vous.
À très bientôt.
Un petit mot ailleurs en Europe, Grenade, nouveau leader, surprise du championnat espagnol. Le classico Barça-Real Madrid reporté, les Andalous en profitent pour prendre la tête de la Liga grâce à leur victoire face au Betis Séville 1-0. Eux sont toujours en tête de la Ligue 1, évidemment, les Parisiens du PSG qui mènent toujours 4-0. Est-ce que Hugo, vous êtes toujours avec nous à Paris, au Parc des Princes? Rien de nouveau pour l'instant?
Ah oui, moi je suis toujours avec vous, les deux équipes aussi, même si clairement cette deuxième période, elle est un tout petit peu ennuyeuse, hein, je ne vais pas vous mentir mon cher Tom, Paris est au petit trot à sa main, hein, faut dire que l'affaire est pliée hein, depuis le premier acte, 4-0 avant la pause. Quant aux Marseillais, ils ont au moins le mérite de jouer le jeu, ils sont plutôt vaillants dans cette deuxième période, ils pressent plutôt haut, ils tentent de combiner, mais les limites sont trop grandes de leur côté pour véritablement inquiéter des Parisiens, véritablement trop fort aujourd'hui. On rappelle un 4-0 pour l'instant, alors qu'il reste un gros quart d'heure à jouer. 4-0 alors que Neymar est blessé, c'est-à-dire que la star de l'attaque n'est pas là, c'est remplaçant entre guillemets, hein. Ce ne sont pas des, à proprement parler, des remplaçants, mais Mbappé, Di Maria et Icardi avaient pour charge d'animer les offensives parisiennes ce soir. Ils y sont particulièrement parvenus, hein, comme face à Bruges plutôt. Attention, peut-être le cinquième but, Icardi qui a failli être servi dans le but vide par Bernat, belle intervention de la défense marseillaise. Icardi, Mbappé et Di Maria ont fait le boulot. 2 buts pour Icardi, 2 buts pour Mbappé, 3 passes décisives pour Di Maria ce soir.
Merci beaucoup Hugo, on vous retrouve dans quelques minutes pour les toutes dernières secondes de cette rencontre. Le football sur RFI, c'est évidemment aussi en Afrique. Pour en parler, on fait appel à l'incontournable Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Rien que ça. Bonsoir Tom, bonsoir à tous.
Vous avez suivi beaucoup de matchs ce dimanche. Tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération oblige. En jeu, les derniers tickets vers une Coupe d'Afrique des clubs. Et l'exploit de ces matchs aller nous vient de Madagascar.
Un exploit en orange et gris, celui de Fosa Junior. C'est les couleurs du club. La formation malgache n'a pas fait de complexe, hein, contre Renaissance de Berkane, pourtant le finaliste de la dernière édition. Victoire 2-0, un but à la 10e minute, un pénalty en toute fin de match. Les Berkanis sont d'autant plus amers qu'ils ont raté eux-mêmes un pénalty à l'heure de jeu. Le match retour à Berkane, où la Renaissance est en général intraitable, s'annonce très intéressant. Parmi les autres résultats de la soirée, à noter la victoire à l'extérieur du Djoliba de Bamako, 1-0 sur le terrain des Tchadiens d'Elexport, où Marc Camara, le numéro 8 des Rouges, marque le seul but de la rencontre à la 85e minute. Et du coup, Georges Kouadio, l'entraîneur du Djoliba, était plutôt satisfait.
Nous savons que nous avons eu affaire à une grande équipe. Cette équipe qui a posé des problèmes énormes à l'Espérance de Tunis et qui a en aller-retour. Nous étions prêts à avoir un match de cette dureté, de cette opiniâtreté, de cette qualité-là. Mais nous avons pu, par notre organisation, faire la différence en gagnant ici. Et cette équipe n'a jamais aussi perdu sur son terrain. Donc ça veut dire que c'est un exploit pour l'équipe du Djoliba. Et bien, ce qui est important pour nous, c'est la qualification. Ce n'est pas la victoire ici. C'est partiel. Et c'est le football, tout peut aussi, il peut avoir aussi des convenus à Bamako. Donc nous allons nous apprêter réellement à pouvoir nous qualifier. C'est le plus important pour nous.
Et en face, rien n'est définitivement perdu pour Elexport. C'est en tout cas le sentiment d'Edgar Ninga, l'attaquant tchadien.
On a perdu, bon, c'est le foot. Il y a des jours que tu peux gagner, il y a des jours aussi que tu peux perdre. Et c'est ça la loi du football. Mais on doit lever la tête et puis préparer le match qui vient la semaine prochaine. On a respecté la tactique du coach et bon, c'est les petits détails. Et puis comme ça arrive au foot, on n'a pas su gérer nos émotions. Et puis on a pris un but à la dernière minute. C'est ça qui nous a coûté. Mais ça arrive dans le football. Et puis ça va passer quoi. Ouais, c'est arrivé. La défaite est arrivée. Donc on se coche de rien. On doit seulement travailler et puis préparer le match prochain. Si on trouve l'occasion là-bas, on marque comme ils ont gagné ici. Nous aussi on peut gagner là-bas. Et c'est la loi du foot. Ça, on n'en doute pas.
Edgar Ninga, l'attaquant de l'export du Tchad, au micro de Saint-Yves de Zabed Chouadang.
Antoine, il faudra attendre pour connaître le vainqueur du match entre la Santé Cotoco et le FC San Pedro.
Et oui, rencontre arrêtée à la mi-temps, le score était alors de 0-0, mais les pluies diluviennes ont fini par rendre le terrain impraticable. L'arbitre sud-africain Eugene Glouli a décidé de ne pas reprendre la rencontre. À Kumasi, les précisions de TTH.
C'est sous une fille plus que démarrera la rencontre entre la Santé Cotoco et San Pedro FC. Celle-ci s'accentuera au fil du match, rendant difficile le contrôle du ballon aux 22 acteurs. Après la pause intervenue sur le score de parité 0 but partout, la pluie deviendra plus forte, obligeant les arbitres à retenir les deux équipes au vestiaire pendant plus de 40 minutes. Dans un premier temps, les officiels iront procéder à une première inspection de la pelouse. Ils y retourneront quelques moments après. Ayant constaté l'impraticabilité de la pelouse pour la suite de cette rencontre, ils ont purement simplement décidé de faire rejouer le match aux grandes dames de l'équipe ivoirienne, dont les joueurs n'ont pas manqué d'extérioriser leur protestation. TTA a dit Kumasi, RFI.
Et dans les autres rencontres, Antoine Le Roya de Conakry s'en est remis à Aristide Bansé et il a bien fait.
Oui, le grand attaquant burkinabé, véritable globe-trotteur, a posé ses valises en Guinée et il a signé un triplé cet après-midi face au Kenyan de Bandari. De quoi offrir un succès 4 buts à 2 aux royistes. Au Togo, succès de la SC de Kara 2-1 sur les Nigérians d'Enugu Rangers. Enimba sauve l'honneur du Nigeria en dominant de son côté les Sud-Africains du Thiès Galaxy 2-0. Et puis les Mauritaniens du FC Nouadhibou ont pris une petite option, une belle option même on peut le dire, en dominant 2-0 les Zimbabwéens de Triangle. Un
carton plein pour les clubs égyptiens également.
Un carton plein à l'extérieur même. El Masri est allé s'imposer 4-0 aux Seychelles face à Côte d'Or. Et Pyramids FC, le club entraîné par Sébastien De Sabre, a battu les Tanzaniens de Young Africans 2-1. Le seul représentant de la RDC, le Daring Club Motema Pembe, est lui allé décrocher le nul un partout sur le terrain des Kenyans de Gormaya.
Destin divers en revanche pour les clubs zambiens.
Green Eagles tenu en échec à domicile un partout par les Marocains d'Agadir, mais succès 3-1 de Zanaco sur le terrain des Équato-Guinéens de Kano Sport. Al Nasser, la formation libyenne, a concédé le nul de partout face aux Ougandais de Proline et un seul 0-0 dans cette journée plutôt prolifique, celui entre les Ougandais de Kampala City et les Algériens du Paradou. Les matchs retour de ce tour de cadrage de la Coupe de la Confédération se disputeront dimanche prochain. On rappelle que Génération Foot et SAFC, eux, s'affronteront plus tard, le 30 octobre selon les agendas officiels, mais la date reste à confirmer, les Sénégalais ayant demandé un délai pour ne jouer leur match que le 2 novembre.
Direction le Brésil à présent. À leur âge, Pelé était champion du monde chez les seniors, mais les moins de 17 ans ont maintenant leur Coupe du Monde à eux et pour l'instant, début parfait pour les équipes africaines, Antoine.
Oui, le continent a 4 représentants sur place. Le Nigeria d'abord, qui s'est imposé hier soir 4-2 contre la Hongrie grâce à un doublé de Samson Tiani. Les Nigérians quintuple champion du monde qui vise une 6e couronne en l'absence de l'Angleterre, championne en titre mais non qualifiée. L'Angola lui a fait ses débuts dans un mondial U17 et des débuts victorieux avec un succès la nuit dernière sur la Nouvelle-Zélande 2-1.
Et en ce moment le Sénégal fait également ses premiers pas dans un mondial des moins de 17 ans.
Et depuis 20h temps universel, les Lionceaux affrontent les États-Unis pour la première journée du groupe D. Les Sénégalais présents au mondial, on le rappelle, parce que la Guinée, finaliste de la CAN U17, a été disqualifiée pour fraude sur l'âge de certains joueurs. Et ça se passe plutôt bien pour les Sénégalais qui étaient pourtant menés 1-0 depuis la 3e minute de la rencontre face aux États-Unis. Mais ils sont revenus d'abord à la 45e par Souleymane Faye et puis ensuite par Baldé et Faye. À nouveau, ils mènent actuellement 3-1 à quelques minutes de la fin de la rencontre et alors que les États-Unis viennent d'être réduits à 10. Bref, on s'achemine vers une première victoire du Sénégal dans une Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Et puis il reste une nation africaine à entrer en lice, c'est le Cameroun.
Versé dans le groupe E avec le Tadjikistan, l'Espagne et l'Argentine, les Camerounais vont devoir prendre des points face aux Tadjiks demain lundi à partir de 23h temps universel. La dernière fois qu'on avait vu les Camerounais en Coupe du Monde des moins de 17 ans, c'était il y a 16 ans en Finlande. Ça ne les empêche pas d'être un peu ambitieux, Joël Wedem.
Le défi à relever par le Cameroun à cette Coupe du Monde est d'abord de se qualifier pour les huitièmes de finale. Une tâche qui sera bien difficile pour les poulains de l'entraîneur Thomas Libi, qui a fermé la porte à 6 joueurs binationaux dont Étienne Eto'o du Real Mallorca et Enzo Chato de Montpellier. La raison, en vertu du décret présidentiel signé en 2014, pour les sélections des moins de 15 et de 17 ans, seuls les joueurs évoluant au Cameroun sont sélectionnables. Au-delà de cet handicap, les moins de 17 ans camerounais sont dans un groupe difficile. Le chemin pour le tour suivant passe déjà ce lundi par une victoire sur le Tadjikistan. Il faudra ensuite affronter l'Argentine qui a occupé 3 fois la 3e place à cette compétition avant de tenter de résoudre l'équation espagnole, la formation ibérique qui a été 4 fois finaliste de ce tournoi. Le Cameroun, qui a bénéficié d'une bonne préparation avec notamment des matchs contre l'Angola, l'Écosse et le Paraguay, peut surprendre. Au-delà du moral de fer et du collectif soudé autour de Steve Mvoué, meilleur joueur africain de la CAN 2019, cette équipe a des qualités pour venir à bout de n'importe quelle formation. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
De la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Brésil à la Ligue 1 en France. Hugo Moissonnier, vous êtes toujours au Parc des Princes pour PSG. OM, le score n'a pas bougé, les Parisiens sont largement devant, c'est ça ?
les Parisiens qui mènent toujours 4-0, mais Marseille qui a failli réduire l'écart grâce au jeune Marley Aké, entré en cours de jeu, 18 ans à peine, et sa frappe est passée à côté des buts gardés par Keylor Navas. Les Marseillais toujours à l'attaque avec Rongier qui décale à droite Hiroki Sakai qui a tenté de déborder, ballon contré, sortie de but à suivre pour les Parisiens. Il reste 5 minutes en comptant le temps additionnel à jouer dans cette rencontre, 4-0 pour le PSG qui a fait la différence dès le premier acte, doublé d'Icardi, doublé de Kylian Mbappé. Les Parisiens de nouveau à l'attaque pour peut-être inscrire le cinquième but, réaliser la manita avec Cavani servi dans la surface de réparation qui rate sa reprise. L'Uruguayen toujours 4-0 pour le PSG face à Marseille.
Merci beaucoup Hugo Moissonnier, à tout à l'heure. Angleterre, Afrique du Sud, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Ce dimanche, en demi-finale à Yokohama, les Springboks ont dominé le Pays de Galles 19-16 après un match très disputé sous les yeux de Cédric De Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Tom.
Les Sud-Africains ont donc logiquement remporté ce duel, mais ça a été très difficile.
Et on vous avait laissé hier après un match admirable de rugby, Tom, une démonstration des Anglais pour dominer les Néo-Zélandais. Et bien cette fois, pas de romantisme, pas d'envolée lyrique, mais plutôt un duel âpre, notamment en première période. Les Springboks n'ont jamais dérogé à leur plan de jeu, c'est-à-dire faire parler leur puissance, notamment celle de leurs avants, et le pied d'André Pollard. Le ouvreur a profité de l'indiscipline des Gallois à la pause. Il y avait donc 9-6. Et même si le 15 du Poireau, comme on surnomme le Pays de Galles, est comme une sangsue, c'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment lâché au score, eh bien les Sud-Africains avaient le dessus, surtout après l'essai de Damian De Allende. Après une inspiration en solitaire au cœur de la seconde période, les Gallois qui sont revenus dans le match grâce à Josh Adams, qui a inscrit lui aussi un essai. Mais c'est bien André Pollard, le demi d'ouverture, 14 points à lui tout seul, qui a eu le dernier mot après une énième pénalité sifflée contre les Gallois dans les ultimes minutes. Les hommes de Warren Gatland, finalement dépassés par l'impact des Sud-Africains et qui s'inclinent donc 19-16.
Une victoire logique pour des Sud-Africains qui n'étaient pas aussi sereins que l'Angleterre la veille.
On vous l'a dit, moins de maîtrise chez les Springboks, mais au final, cette qualification qui leur a été promise avant le début de match, ils étaient favoris et les partenaires de Lucanio Ham, le trois quarts centre, sont satisfaits d'avoir su répondre présent malgré tout.
C'est un vrai mélange d'émotions en ce moment. On est vraiment ravis du résultat et puis à la fois excités de disputer la finale. C'était un beau duel, les deux camps ont joué leur va-tout. C'était un duel tactique, aérien, typique de ce que l'on peut voir lors des demi-finales. On est vraiment content de notre performance. On a réussi à capitaliser et profiter de toutes les opportunités qu'on a eues. On est vraiment content. On a joué notre partition, notre jeu, et puis maintenant nous voilà en finale.
Le trois quarts centre Ham, plutôt content donc de la performance de l'Afrique du Sud qui va pouvoir tenter d'aller décrocher son troisième titre mondial samedi.
L'Afrique du Sud, logiquement favorite du fait de son histoire en Coupe du Monde, deux titres remportés, 1995 et 12 ans plus tard, 2007.
Ouais, plus dense physiquement, plus sûr de leur force, les Sud-Africains n'ont jamais dévié de leur plan de jeu, on l'a dit. Leur impact physique a été considérable et a fini par épuiser les Gallois, les poussant à commettre des fautes impardonnables dans les dernières minutes de la rencontre. 12 ans donc après leur dernière participation en finale de Coupe du Monde, le capitaine Siya Kolisi et ses partenaires savourent le chemin parcouru.
Cela signifie beaucoup pour moi et pour l'équipe. Nous avons travaillé tellement dur. Le Pays de Galles a donné son maximum dans ce match et nous aussi. On savait qu'on allait faire des erreurs et c'est une des choses que j'aime chez le coach. Il savait qu'on allait faire des erreurs, mais il nous a dit de ne jamais abandonner. Rassi nous connaît par cœur, il nous a remis sur le droit chemin. On a dû adhérer à son plan quand il nous a expliqué que les Springboks étaient la chose la plus importante. Il nous a ramenés sur terre et il nous a dit « Vous devez d'abord bien jouer ». et le reste viendra ensuite. C'est génial de voir tout ça se réaliser et ce sera encore mieux si jamais on va au bout tous ensemble.
Elle a confiance du capitaine Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'Afrique du Sud, on le rappelle, intronisé depuis l'arrivée de Rassier Erasmus, c'était en mars 2018.
Le sélectionneur à l'origine d'un gros travail pour préparer la sélection sud-africaine à ce mondial.
Il a voulu fédérer Rassier Erasmus et c'est en partie grâce à ça que l'Afrique du Sud est parvenue à se hisser en finale, une nation multicolore qui se retrouve donc dans cette équipe. Et d'ailleurs, les supporters ne s'y sont pas trompés. L'ailier Sebun Kossi, qui remplaçait Cheslin Kolbe pour ce duel, c'est primordial, a du mal à réaliser en tout cas tout le soutien qui affleure vers la sélection.
On sent que l'Afrique du Sud est derrière nous, depuis le début, même avant le début de la Coupe du Monde. Les gens nous envoient des messages, des vidéos, ils parlent de nous, nous supportent, alors que ça a été plutôt négatif ces dernières années. Donc on sent le pays tout entier derrière nous. Je ne vois pas ce que je peux ajouter à ce que je viens de dire.
Même le président sud-africain Cyril Ramaphosa fait part de son soutien la veille en appelant le capitaine Siya Kolisi. Il devrait pouvoir normalement se rendre au Japon pour assister à cette finale de la Coupe du Monde. Ce sera donc face à l'Angleterre. Tom, on en a parlé hier, si impressionnante face à la Nouvelle-Zélande. La troisième finale des box est la revanche de la finale 2007 remportée à Paris par la bande à Brian Abana. Et les Sud-Africains pourraient bien remporter là leur troisième trophée mondial en trois finales.
Merci beaucoup Cédric De Oliveira. La petite finale opposera elle le Pays de Galles à la Nouvelle-Zélande et ce sera vendredi. On va tout de suite retourner à Paris une dernière fois puisque le match, le classique PSG-OM vient de se terminer sous les yeux d'Hugo Moissonnier, toujours 4-0, c'est une raclée hein, qu'on peut dire pour l'OM.
Oui, une correction. Heureusement qu'il ne s'est rien passé en deuxième période et que le Paris Saint-Germain a nettement baissé en intensité pour les Marseillais, tant la différence de niveau, elle était criante lors du premier acte, 4-0 à la pause, du jamais vu hein, dans l'histoire des classiques. Au passage, Icardi, Di Maria, Mbappé, le trio gagnant, alors que Neymar n'était même pas là. Icardi en deux temps buteur dès la dixième minute, à bout portant Icardi qui devance Steve Mandanda de la tête à la 26e minute, puis Mbappé dans le but vide, bien servi par Di Maria, puis de nouveau bien servi par Di Maria juste avant la pause. Kylian Mbappé qui devient d'ailleurs au passage le meilleur buteur du PSG cette saison, toute compétition confondue. Mbappé qui bat Steve Mandanda au classement. Ça nous donne le PSG toujours largement leader devant Nantes, seul dauphin. Ça vous fera plaisir mon cher Tom Rossi, puisque Marseille avait l'occasion de rejoindre les Canaries. Marseille ne la saisit pas du tout cette opportunité. Marseille 7e au classement, largement dominé. Marseille qui court après une victoire face au PSG depuis 8 ans pratiquement jour pour jour. C'était la dernière fois, c'était en novembre 2011. La différence de niveau elle est trop importante entre deux clubs qui n'évoluent plus du tout dans les mêmes eaux en termes d'envergure économique notamment hein, depuis 2011 justement, depuis que le PSG est passé sous pavillon qatarien. Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, ne misait pas grand chose hein, sur cette rencontre, ce classique qui a perdu tout intérêt hein, selon lui hein, c'est en substance qu'il avait déclaré dès le week-end dernier. Force est de constater qu'on a du mal à lui donner tort ce soir à l'entraîneur portugais.
Merci beaucoup Hugo Moissonnier, bonne fin de soirée au Parc des Princes. Bref retour sur le continent, on range les crampons, place au cyclisme, changement d'épaule pour le maillot jaune au Tour du Faso Luanda, hérite de la tunique Antoine.
Et plus précisément Moïse Mugisha, vainqueur de la troisième étape, arrivé aujourd'hui à Dapaon au Togo. Le coureur de l'équipe du Rwanda domine au sprint le Burkinabé Bashiru Nikiema à l'issue des 145 km de course. Il s'adjuge du même coup le maillot jaune.
Merci beaucoup Antoine Grenier, on vous retrouvera demain pour le journal des sports Afrique de 19h45. Temps universel. Merci également à Laurent Baudouin à la technique et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez raté une partie de l'émission, le réflexe podcast sur notre site www.rfi.fr ou l'application mobile RFI Pure Radio, la page Facebook Mondial Sport, RFI Sports ou Twitter et Instagram. Vous pouvez nous retrouver partout. Tout de suite, c'est 24 heures en France. Bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.
musique du monde.